En enfonçant son chapeau, il prit la direction de la cure. Lorsqu'il revint une bonne heure plus tard, il était tout heureux. Le lendemain, c'était le notaire qui arrivait. Il resta enfermé avec lui toute la matinée. Et lorsqu'ils l'eurent accompagné, il vint se placer en se frottant les mains, comme il avait l'habitude de le faire chaque fois qu'il était satisfait, devant la fenêtre qui donnait sur le jardin.
C'est joli ces prés qui bordent votre jardin. Ce serait commode de posséder tout cela. Ah, dommage que ce ne soit pas à vendre.
C'est que justement, c'était à vendre. Mais les deux sœurs n'avaient pas assez d'argent pour acheter. Elles se gardèrent bien de le dire au général.
C'est d'autant plus dommage que si quelqu'un achetait et bâtissait, vous n'auriez plus l'eau de la rivière.
À partir de ce jour-là, il y eut beaucoup d'animation dans le village. Des ouvriers s'installèrent à l'ancienne auberge Bournier et y travaillèrent avec tellement d'ardeur qu'une semaine plus tard, le bâtiment était complètement transformé. On y avait même accroché une nouvelle enseigne, mais elle était restée voilée. Il en était de même dans les prés et les bois qui bordaient l'ange gardien. Des ouvriers y traçaient des chemins, y plaçaient des bancs, jetaient des ponts sur la rivière, et ils y installèrent même un petit embarcadère avec une jolie barque pour la promenade. Elfie, Madame Blidot et Moutier suivaient ces travaux avec un peu de tristesse.
Contentons-nous de ce que nous avons, ma chère Elfie.
Je trouve tout de même stupide que ma sœur et moi, nous n'ayons pas pu acheter cela.
C'est exactement ce que je me dis. Seulement une haie à ouvrir, et vous auriez eu là une magnifique propriété.
Excusez-moi, mon général, mais je préférerais que vous n'augmentiez pas les regrets d'Elfie.
Bon, ne dit-elle pas toujours que vous lui tenez lieu de tout, de l'ombre des sous-bois, de la fraîcheur des rivières, du chant du rossignol. Un peu de sentiment, voyons.
Et le général se retira en riant, car il avait une course à faire.
Je le trouve insupportable depuis quelques jours.
Ne le jugez pas mal, Elfie. N'oubliez pas que sans lui, je n'aurais jamais demandé votre main.
La personne que le général plongeait dans la plus grande inquiétude était Madame Blidot. Elle voyait le jour de la noce approcher et il lui avait interdit de s'occuper de quoi que ce soit. Elle voyait bien arriver une multitude de caisses à l'ancienne auberge Bournier, mais comment être sûre que le général faisait ce qu'il fallait faire?
Laissez-moi au moins lancer les invitations à nos parents.
Je les connais mieux que vous.
Mon Dieu, où allons-nous avec tout cela?
Demain, c'est le contrat. Vous verrez ce que Dourakin sait faire.
Pour la brave Madame Blidot, il était clair qu'on allait à la catastrophe. Pourtant, le lendemain, lorsque le général décréta qu'il était temps de s'habiller, la crainte fit place à la stupéfaction la plus complète. Chacun trouva dans sa chambre les plus beaux vêtements dont on puisse rêver.
Quand je vous disais qu'il ne fallait pas se tourmenter, en avant maintenant, direction l'auberge Bournier.
On se mit en marche, et les villageois apparurent à leurs fenêtres ou sur le seuil de leurs portes pour contempler le spectacle.
Venez, venez! Vous êtes tous invités, allez, venez!
Ce fut une véritable foule qui arriva devant l'ancienne auberge Bournier. On y dévoila l'enseigne et chacun put lire au général reconnaissant.
Oui, mes amis! Si le général qui a acheté cette auberge nous dit par cette enseigne la reconnaissance qu'il a pour le village où nous l'avons accueilli, vous devez savoir qu'il a droit lui aussi à notre reconnaissance. Il nous a fait un don de 150 000 francs pour réparer notre église, pour fonder une maison de sœurs de charité, un hospice, un asile, pour porter secours aux malades, aux infirmes.
On n'entendait plus la voix du curé, et la foule se précipita pour porter le général en triomphe jusqu'à l'intérieur de l'auberge, où attendait le notaire, installé devant sa table.
La future apporte en dot les prés, bois et dépendances attenant à l'auberge dite de l'ange gardien.
C'était le somptueux cadeau du général à la petite Elfie. On s'embrassait, on pleurait de joie dans l'assistance. Et le général était de beaucoup le plus heureux.
Allez, maintenant, il est temps d'aller déjeuner.
Mais
où, ma petite femme?
En évaluant la foule qui suivait le général, Madame Blidot se dit que cette fois, c'était la catastrophe qu'elle attendait depuis une semaine. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'auberge de l'Ange Gardien, tout avait été transformé pendant leur absence. L'entrée était garnie de caisses d'orangers. La table était tapissée d'étoffes. Et sur les tables qui avaient été dressées dans tous les coins possibles, des cuisiniers et des garçons venus de Paris servirent le plus somptueux repas dont on ait gardé souvenir dans le village.
Demain, mes amis, ce sera beaucoup mieux. Un vrai festin de Balthazar.
Oui, Balthazar, je connais. Allez, je suis déjà allé à Balthazar.
Et tout le monde s'égaya dans le pré nouvellement aménagé, où l'on vit même courir le notaire avec Paul et Jacques. Seul le curé et le général étaient restés à l'auberge.
Vous avez donné bien du bonheur.
Ma tâche pourtant n'est pas finie. Je vais retourner dans mon pays, maintenant que la guerre est finie, et je compte emmener avec moi Dérigny et ses deux enfants.
Ce sera un coup terrible pour la pauvre Madame Blidot.
Pas si je décide Dérigny à devenir le mari de la seconde mère de ses enfants.
Ni le somptueux repas, ni la perspective de la fête du lendemain n'empêchèrent le général de dormir 10 heures d'affilée, de sorte qu'à 7 heures du matin, il était en pleine forme.
Alors, mesdames, avez-vous trouvé vos nouvelles toilettes à votre goût ?
Le général, en effet, avait fait livrer le matin même les toilettes qui convenaient à cette nouvelle journée.
Elles sont absolument splendides, général. Nous n'aurions jamais pu nous offrir des choses aussi belles.
Alors, allez les mettre, que je les vois sur vous.
Personne ne se fit prier. Il n'y eut que le général qui se fit attendre. Dérigny avait quelques difficultés à le sangler dans son grand uniforme. Mais lorsqu'il parut, ce fut un émerveillement. Il brillait de tous les côtés, avec ses broderies d'or et ses innombrables décorations, tout en diamants, comme la poignée de l'épée qui pendait à ses côtés.
Vous êtes superbe !
Il n'y avait pas que du bonheur, cependant, dans la salle de l'auberge. Dérigny se rappelait son propre mariage. Il se demandait comment ses enfants allaient prendre la séparation d'avec leur seconde maman. Et il était triste aussi de la peine qu'aurait Madame Blidot le jour où il partirait.
Courage, mon ami. J'ai arrangé la vie de Moutier. J'arrangerai aussi la vôtre.
Il faut reconnaître que ce général était un peu magicien. Ce fut un mariage comme jamais personne n'aurait pu l'imaginer. L'intérieur de l'église était entièrement décoré de tentures et l'autel resplendissait de candélabres tout neufs. Pour le repas, ce fut encore plus fantastique. Bisque aux écrevisses, potage de tortue, turbot, saumon, chevreuil, perdreau aux truffes, sans compter les crèmes, les babas, les Saint-Honoré gigantesques. Après, ce fut le bal. Tout au moins pour ceux qui, repus de nourriture et de boissons, ne s'étaient pas endormis dans leur fauteuil. Ce n'était pas le cas du général. Il avait retrouvé ses jambes de 20 ans et se démenait comme un beau diable.
Allez les jeunes, allez!
On arriva ainsi à 10 heures.
Et maintenant, place au feu d'artifice!
Regardez! Oh! Ça commence!
Jamais le village n'avait connu un tel événement. Tout le monde était ébahi. Ce n'est que vers 3 heures du matin que l'on se sépara, titubant de fatigue.